Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous nous intéressons à l'histoire magistrale du christianisme en Éthiopie avec une jeune universitaire, Martina Ambou. Vous êtes historienne, vous avez fait votre thèse à Paris 1 sous la direction de Marie-Laure Derat, déjà venue dans notre émission plusieurs fois. Du texte à la communauté, relations et échanges entre l'Égypte copte et les réseaux monastiques éthiopiens du XIIIe au XVIe siècle. Alors, l'histoire du christianisme en Éthiopie est ancienne, mais vous, vous vous intéressez à la période médiévale. Bonjour Martina.
Bonjour Sébastien.
Alors, deux points d'approche pour présenter votre travail qui est absolument passionnant. Celui d'abord de l'arrivée du christianisme en Éthiopie, en Abyssinie. Voilà, c'est un mot qu'on utilise aussi parfois, au temps de l'ancien royaume d'Aksum. Puis, de ses liens étonnants, méconnus, je dois dire, comme une respiration nécessaire avec la Méditerranée, le long du Nil ou de la mer Rouge, vers Jérusalem, où les liens avec l'Égypte copte sont très anciens. Car vous allez nous expliquer que l'autocéphalie, pourrait-on dire, l'indépendance de l'Église d'Éthiopie est assez récente en fait, je crois 1959. Mais avant d'en arriver là, racontez-nous ce que nous savons de l'arrivée du christianisme en Éthiopie.
L'arrivée du christianisme correspond traditionnellement à, on le situe au IVe siècle, au moment de la conversion du royaume d'Aksum. Donc le roi Ezana, plus précisément, se convertit au christianisme. Cela n'est pas étonnant parce que le royaume d'Aksum est en lien avec la Méditerranée par le commerce de la mer Rouge. De nombreux marchands, probablement d'origine grecque, ou en tout cas de Méditerranée orientale, fréquentaient déjà les hauts plateaux éthiopiens. Selon la tradition, le roi Ezana se serait converti donc grâce à l'action d'un missionnaire, probablement venu de Tyr, qui est connu dans les sources grecques et latines du IVe et Ve siècle sous le nom de Frumens et, selon la tradition éthiopienne, Frémenatos. Il y a beaucoup de sources de nature variée qui peuvent aller de pièces de monnaie, inscriptions, stèles, qui attestent de cette conversion de la part du roi Ezana au christianisme, typiquement des monnaies qu'il avait frappées au début du IVe siècle, qui ne portaient pas de signe de la croix et qui commencent à le présenter ce symbole dans la numismatique. Et c'est à partir de ce moment que les relations s'intensifient avec, étonnamment, l'Égypte. Selon la tradition, justement, dans ces récits des encyclopédies ecclésiastiques du IVe, Ve siècle, il est dit que Frumens alla chercher l'aide d'un chef d'une église le plus proche possible. Donc il se rend à Alexandrie, où se trouvait à l'époque le patriarche Athanase le Grand, qui est, je pense, mondialement connu. Et Athanase décide de l'ordonner au titre de métropolite, qui, si on veut, il s'agit d'un vicaire de l'église égyptienne à l'extérieur d'Égypte.
Alors, il faut resituer un petit peu la géographie. Vous avez évoqué vous-même la notion de haut plateau. Donc, il faut nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond pour cette Abyssinie historique. Et le lien, donc, avec l'Égypte, qui est une évidence, qui est le Nil.
Tout à fait. L'Éthiopie, comme on l'entend, comme vous dites, Abyssinie, qui est un terme énormément utilisé aussi dans les années 30-40 par la littérature italienne. Aujourd'hui, on préfère utiliser le terme Éthiopie, mais Abyssinie encore utilisé, se divise en deux types de territoires majeurs qui sont les hauts plateaux, donc des chaînes montagneuses qui traversent le nord de l'Éthiopie, le centre de l'Éthiopie ainsi que le sud de l'Érythrée actuelle, qui se trouve dans la côte de l'Afrique, et qui sont côtoyés à l'est par des bas plateaux, donc des types de paysages complètement différents. Traditionnellement, on situe une majorité de populations chrétiennes qui vivaient et qui vivent toujours sur les hauts plateaux, tandis que dans les bas plateaux se trouvent des communautés musulmanes. Les contacts avec l'Égypte se font bien entendu par le Nil, mais aussi par voie maritime et par voie terrestre. Donc de nombreux pèlerins partaient et en parcourant des étapes très importantes pour le pèlerinage annuel vers Jérusalem, ils s'arrêtaient dans de nombreux monastères en Érythrée et puis au Soudan actuel, donc l'ancienne Nubie, ainsi que en Égypte.
L'ancienne Nubie qui a été chrétienne aussi à un moment donné de l'histoire.
Tout à fait. Cela est très intéressant parce que l'Éthiopie et la Nubie sont intrinsèquement liées, mais non pas entre elles, mais à cause de la relation qu'elles entretiennent pendant plus de 1000 ans avec l'Égypte chrétienne. Les Nubiens aussi avaient des contacts avec des évêques et des métropolites qui étaient ordonnés par le même patriarche d'Alexandrie, donc en Égypte, et qui ont aussi leur culture religieuse, leur vie monastique et leur spiritualité, et qui se profitent de manière complètement, étonnamment différente par rapport au monachisme éthiopien et à la spiritualité éthiopienne.
Alors il y a un titre qui est donné à ce premier métropolite d'Éthiopie, donc c'est un terme qui explique justement cette hiérarchie qu'il y a entre Alexandrie, donc qui est le cœur où le patriarche est installé. Vous avez évoqué la figure tutélaire d'Athanase. Donc ce métropolite copte installé en Éthiopie, donc qui va diriger les destinées de cette église éthiopienne, est appelé le révélateur de la lumière. Quelle belle expression.
C'est très bien. Et Frumens, du moment où il est ordonné, il décide de prendre un nom qui est extrêmement beau, à mon avis, qui est celui de Salama, qui est la paix. Et qui est ensuite, dans les sources plus tardives du Moyen-Âge éthiopien, appelé Ksataberan, le révélateur de la lumière, parce que c'est celui qui dévoile les écritures à cette nouvelle population qui se convertit au christianisme au IVe siècle. C'est un nom extrêmement important parce que ce ne sera pas le seul métropolite à porter ce nom. Il y en aura deux autres, donc le troisième sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler dans le cadre de ma thèse, qui sera Salama, lui aussi le révélateur de lumière, mais qui sera appelé Salama le traducteur. Salama le traducteur, qui a été un personnage extrêmement important pour le Moyen-Âge éthiopien, était un Égyptien qui fut un homme politique, puisqu'il fut, comme on l'a mentionné, un métropolite. Donc il occupait la fonction de chef de l'Église. Donc il avait l'autorité suprême de ordonner des évêques, consacrer des églises, oindre les moines, parce que dans le rituel de prise de l'habit monastique en Éthiopie, on avait aussi l'onction de la tête et de tous les éléments de l'habit monastique. Mais il fut non seulement un personnage politique de grande importance, mais il fut aussi un homme intellectuel qui a révolutionné véritablement la spiritualité et la vie monastique à l'échelle, je dirais, nationale, entre guillemets, de l'Éthiopie médiévale.
Alors ce qui est assez fascinant quand on lit votre texte, c'est qu'on se rend compte en fait que ce réseau intellectuel éthiopien, d'abord, est très ancien, s'est étendu jusqu'à Jérusalem, en passant par ces fameux monastères coptes, donc égyptiens de la mer Rouge, Saint-Paul, Saint-Pacôme, Saint-Antoine.
Saint-Antoine, enfin, oui.
Voilà, où il y a une présence éthiopienne depuis le XIIe et XIIIe siècle, en tout cas, qui est avérée.
Oui, c'est récemment qu'on a trouvé, c'est une équipe, je pense, suédoise, qui a fait des fouilles au monastère de Saint-Antoine, qui est ce merveilleux monastère non loin de la mer Rouge, où ils ont identifié un fragment d'un manuscrit éthiopien sur papier, qui est très rare, parce que le plus souvent, les Éthiopiens utilisent le parchemin. C'est donc issu de la pratique des Éthiopiens, disons, de la diaspora, de ce réseau des Éthiopiens de l'étranger, de se servir du papier, parce que c'est le matériel qu'ils trouvaient sur place. Et ben, ils ont retrouvé ce fragment qui contient un texte qui n'est pas attesté en arabe, dont la version arabe est perdue, mais qui est conservée en anglais, qui est probablement une homélie du pseudo Chrysostome, qui s'appelle « De Silencio ». Et ce qui est très intéressant, c'est que cela nous prouve que les Éthiopiens fréquentaient le site bien avant la période qu'on connaissait jusqu'en 2016. Donc avant, on croyait qu'ils étaient très présents à partir de la fin du XIVe siècle, mais ce fragment nous situe une présence à partir au moins du début du XIIIe siècle, voire fin du XIIe siècle, à un moment où malheureusement, on possède très 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 peu de manuscrits éthiopiens. C'est particulièrement à partir de la fin du XIIIe siècle qu'on commence à voir des codex. Mais avant, on sait très très peu.
Donc ce christianisme éthiopien que l'on imagine réfugié sur ces hauts plateaux, c'est un petit peu une mythologie, parce qu'en fait, il était déjà en relation avec un monde contemporain de manière très extensive. Il y avait déjà ses routes de voyage, ses routes de monastères et ses pèlerinages vers Jérusalem.
La communauté éthiopienne de Jérusalem, surtout grâce aux découvertes récentes de deux collègues, on a pu constater qu'ils étaient présents déjà au début du XIIIe siècle, voire avant. Et c'est grâce à ce tissu, comme vous dites, de monastères que les Éthiopiens avaient des appuis locaux. Ils étaient probablement aidés par le patriarche et par les fidèles coptes dans leur long voyage, qui n'était pas sans péril, sans danger. Nous avons plusieurs attestations de pèlerins qui trouvaient la mort à cause de la maladie ou des attaques de la part de brigands tout au long du chemin, qui les séparait de l'Abyssinie, comme on dit, à la ville sainte. Et donc, c'est grâce à la religion et à cette dévotion particulière de la part des pèlerins éthiopiens que nous pouvons retracer une véritable géographie, je dirais géographie éthiopienne, de l'Égypte et de la Méditerranée. Donc, dans mon travail de recherche, j'ai pu reconstituer les lieux qu'ils ont visités, non seulement grâce à la présence de manuscrits, qui peuvent être des bibles et qui contiennent en leur sein aussi leurs archives, donc des véritables communautés qui ont leurs propres statuts, leurs règles, leurs inventaires, etc. Mais aussi grâce à des inscriptions ex voto, des graffitis, des peintures, notamment une peinture extraordinaire qui se trouve aujourd'hui dans un monastère égyptien de l'Ouadi Natroun, qui a été réalisée par un peintre éthiopien qui s'appelle Tekla Labissin El Habashi, qui en 1517, me semble-t-il, a peint les murs de la tour de garde du monastère de Saint-Macaire. Et donc c'est grâce à ces petits indices, encore plus extrêmement variés, qu'on peut retracer une histoire qui traverse les siècles jusqu'à aujourd'hui. Ou encore on peut trouver des dévots, des fidèles éthiopiens qui sont installés dans ces sites, dans ces lieux, et qui côtoient d'autres communautés qui peuvent partager la même foi ou pas. Ce n'est pas sans étonnement que j'ai pu voir des inscriptions éthiopiennes à côté, des inscriptions syriaques, ou arabes, ou coptes, arméniennes, géorgiennes, dans les murs des monastères les plus importants d'Égypte ou de Jérusalem, par exemple.
On vous sent passionné par votre sujet. Comment pourriez-vous nous décrire en peut-être deux ou trois points importants la spécificité du christianisme éthiopien ?
Il n'y a pas un seul christianisme éthiopien. Il n'y a pas un seul monachisme, et les études, déjà il y a, je peux dire, je suis fière d'appartenir à une école nouvelle, lancée par Marie-Laure Dera, que vous avez déjà eu la chance d'avoir ici avec vous. Nous connaissons très peu comment le monachisme éthiopien a pu se frayer ce type de chemin, et comment il a pu évoluer sur les hauts plateaux. Typiquement, on ne sait pas très bien comment les moines vivaient. Vivaient-ils ensemble, séparément, mangeaient-ils ensemble ou pas? Y avait-il des ermites? On sait très peu. Il faut aussi prendre en compte que le territoire éthiopien, qui se christianise peu à peu du nord vers le centre, puis vers le sud, ne fait pas face au même type de population. Ce sont des populations qui se christianisent avec leur rythme et selon des conditions politiques qui peuvent être extrêmement muables. Nous pouvons voir, par exemple, au début du XIVe siècle, un roi, Kiom Datseyon, qui règne de 1314 à 1344, et qui, lui, arrive, après des manques de guerre, de conquête, de territoires à majorité musulmane, il a l'envie d'instaurer une véritable politique de tolérance et à promouvoir d'un côté les moines, mais aussi assurer aux fidèles musulmans la tranquillité, la paix, sans qu'il y ait trop de vagues missionnaires chrétiennes qui aillent vraiment contre la foi de ces sujets musulmans. Pour moi, une spécificité, c'est les églises creusées.
La Libella, par exemple.
Par exemple, mais pas que. Je pense à un voyage que j'ai eu la chance de faire en compagnie d'un ami et savant prêtre byzantin qui s'appelle Emmanuel Frisch. J'étais jeune étudiante et je peux me rendre dans l'Enderta, qui est une portion septentrionale de la région du Tigré, qui est malheureusement connue aujourd'hui à cause de la guerre qui a traversé le pays pendant 2 ans et qui l'a ravagé malheureusement. Donc avant la guerre, j'ai eu la chance de visiter des nombreuses églises qui se trouvent sur les sommets de ces montagnes à 2-3 000 mètres, dans une végétation incroyable, les parfums et Et c'est un endroit magnifique. Je pense aussi, pour moi, ce qui caractérise le christianisme et le monachisme éthiopien, c'est la culture du manuscrit. Le manuscrit qui est, comme je vous ai dit, nous avons une production de manuscrits assez consistante à partir du XIIIe siècle. Il y en avait probablement avant. Donc on en a trois qui sont attestés du VIe siècle, enluminés, avec des images, des enluminures extraordinaires qui se rapprochent des enluminures de manuscrits byzantins.
Vous citez le travail de Jacques Mercier que nous avions reçu dans cette émission.
Exactement, et c'est un travail extraordinaire, celui de Mercier et de Claude Lepage avant lui, qui ont énormément contribué à la connaissance vraiment du manuscrit enluminé éthiopien. C'est un objet qui, pour moi et pour tous les éthiopisants et éthiopisantes, est nécessaire, parce que le manuscrit éthiopien est tout un monde. C'est un objet artistique, c'est un objet spirituel. C'est là qu'on peut trouver justement toutes les traductions de textes qui se sont faites grâce aux intellectuels étrangers, mais aussi éthiopiens, qui ont traduit des textes bibliques, hagiographiques, normatifs, de l'arabe vers le guèze, avant cela du grec vers le guèze.
Le guèze, faut-il le préciser, est la langue liturgique de l'Église éthiopienne.
Tout à fait, c'est la langue liturgique, mais aussi la langue administrative. C'est pour cela que jusqu'au 19e, voire début du 20e siècle, même la royauté éthiopienne se servait du guèze comme langue d'autorité. Le guèze qui est une langue sémitique, dont la graphie pour moi est vraiment très très jolie. Et c'est dans ce manuscrit qu'on trouve donc aussi les archives, toute cette documentation qui nous permet de voir, si vous me permettez l'expression, en négatif, toute la vie, tout le microcosme qui est celui d'un monastère. Notamment, je travaille en ce moment un projet qui porte sur l'histoire des moniales. Et je suis tombée il y a peu sur un document qui est issu probablement d'une abbesse du tout début du 15e siècle, qui, elle, établit des règles pour une communauté visiblement mixte, non pas dans la mesure que hommes et femmes vivaient ensemble dans le même bâtiment, probablement pas, mais une communauté qui se voulait féminine et masculine, qui était dépendait de l'autorité de cette abbesse, qui était probablement une princesse, qui s'appelle Zirganella, et dont on sait très peu, et qui, comment dire, une piste pour une recherche future qui se promet enrichissante et nouvelle. Et donc c'est tout simplement en feuilletant les pages d'un évangile que je suis tombée sur ce document extraordinaire, qui était déjà connu grâce à un grand spécialiste français des années 20, du siècle dernier. Et j'ai pu, grâce à la nouvelle technologie, la digitalisation des manuscrits, numérisation des manuscrits de la part des bibliothèques en Éthiopie, comme en Europe ou aux États-Unis, qu'on peut avoir accès très facilement à ce type de documentation et travailler de manière approfondie sur ces questions.
Martine Ambou, est-ce qu'il y a un lieu particulier qui vous touche pour des recherches, peut-être une fouille archéologique à laquelle vous auriez participé?
Oui, c'est en compagnie de Marie-Laure Derat, donc mon ancienne directrice de thèse, qu'en 2018, j'ai eu la chance de me rendre à Mariam Nazareth, qui est un site extraordinaire, qui se trouve dans une vallée merveilleuse, non loin de Mekele, qui est le chef-lieu de la région du Tigray, donc c'est dans le nord du pays, toujours sur des hauts plateaux extrêmement beaux. Et grâce aux recherches menées par cette équipe éthiopienne et française, menée par Marie-Laure Derat, nous avons pu fouiller une église qui n'est pas une église éthiopienne, mais une église fondée par un métropolite égyptien, et qui se veut, dans la manière d'être érigée, dans les locaux internes, une église véritablement égyptienne, vraiment avec des coupoles, avec cinq nefs, qui n'est absolument pas le cas d'autres églises éthiopiennes. Et que moi, de mon côté, j'ai pu mener un travail vraiment de documentation sur les textes en arabe, en guèze, en latin, en français, en vieil italien, et qui pointent tous vers une présence égyptienne, un véritable fief d'un métropolite qui n'était pas seulement un chef de l'église, mais qui était aussi un homme politique. Le fondateur de ce site, selon les documents que nous avons pu recueillir, Marie-Laure Derat et moi-même, c'était un métropolite donc, qui s'appelait Michael, qui était, selon l'histoire des patriarches d'Alexandrie, qui est un texte étudié par Perrine Pilette, qui elle aussi est venue ici, selon lequel Michael était un moine du monastère de Saint-Antoine et qui avait été affecté en tant que métropolite de l'église éthiopienne vers le milieu du XIIe siècle et qui avait les moyens économiques, hein, financiers, pour pouvoir fonder une église, en fonder plusieurs, et attribuer à ces églises des terres, des biens, des livres et avoir ses propres terres. Ce site restera, selon les sources que j'ai pu cerner, un site métropolitain et égyptien, probablement jusqu'au XVIe siècle.
Une dernière question. Je mentionnais en introduction la date de 1959, date à laquelle se termine la tutelle de l'Église égyptienne sur l'Église d'Éthiopie. Pardon. Comment ça s'est passé, cette forme de libération?
C'est vraiment le mot approprié. C'est une forme de libération. Au moins, c'est comme cela que les Éthiopiens l'ont vécu. Les rapports avec Alexandrie, donc, qui après c'était le Caire, puisque le Pataka a été déplacé de la ville d'Alexandrie à la ville du Caire, il me semble-t-il au XIIIe siècle. Ce n'a pas été toujours une relation facile. L'humiliation pour les Éthiopiens, au moins, comme ça cela a été perçu jusqu'au temps récent, c'était ne pas pouvoir avoir un chef qui parlait leur langue. Ne pas avoir un Éthiopien qui puisse représenter, être le chef de l'Église éthiopienne. Cela était dû à plusieurs textes canoniques qui imposaient ce lien de dépendance, si on veut. Déjà au XIIIe siècle, il y eut probablement des fractures, des ruptures, des Éthiopiens qui allaient demander, non pas au patriarche d'Alexandrie, un métropolite, mais au patriarche d'Antioche. D'autres qui disaient, mais ce serait mieux si c'était notre abbé qui devenait notre métropolite, n'est-ce pas? Il y a typiquement, particulièrement un réseau monastique, un mouvement monastique qui est celui guidé par Thécla et Manotte, qui par moments se voulait de plus en plus autonome et indépendant. Donc c'est aux alentours du 19e siècle que l'Église éthiopienne, encore dépendante d'Égypte, arrive à revendiquer la présence d'évêques éthiopiens, donc non pas métropolites mais évêques. Et c'est en 50 ans que ce processus très très lent de revendication d'indépendance s'est fait, au moment où pour les Égyptiens était impossible de freiner cette envie d'autonomie et d'une Église qui n'était plus une Église égyptienne, c'était une Église éthiopienne et qui méritait d'avoir son propre chef.
Martina Ambou, merci beaucoup pour ce fantastique panorama. On vous envie, on a aussi envie de vous souhaiter beaucoup de courage pour la continuité de vos recherches. Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon et Manon Houssin pour la technique. Nous retrouvons maintenant le rendez-vous protestant de Soleil. Bon dimanche.